suis dû louper un épisode. Les entretiens de Pascal Fourier. Aujourd'hui, deuxième partie de l'entretien avec Jean-Luc Gréaux, économiste et auteur de l'avenir du capitalisme et de la trahison des économistes. Deuxième partie donc de l'entretien avec Jean-Luc Gréaux. Je vous rappelle le contexte. J'ai rencontré Jean-Luc Gréaux le 14 janvier dernier dans un petit bar du 18e arrondissement. Ambiance quelque peu bruyante. La première partie de l'entretien était plutôt centrée sur les causes de la crise que nous vivons actuellement. Pour Jean-Luc Gréaux, le libre-échange mondialisé en est définitivement la cause première. Suite de notre entretien donc, mais un entretien un peu à bâton rompu. J'avais coincé Gréaux, j'en ai profité pour lui poser toutes les petites questions qui me trottaient dans la tête. L'aspect abrupt et net de certaines de ses réponses est, vous le verrez, un peu déconcertante.
J'ai entendu certains commentateurs divers et variés qui disaient qu'il suffisait finalement de réguler le capitalisme. Il suffisait qu'on se mette d'accord. C'était l'objet des différents G qu'on a pu...
Alors d'abord, le mot réguler est très ambigu. En anglais, il veut dire réglementer, réglementation. Bon. Regulation, c'est réglementer. Bon. Il semble bien que beaucoup de Français utilisent le mot régulation par une transposition pure et simple du vocable anglo-saxon dans le vocable français. Or, la régulation, c'est tout à fait autre chose que la réglementation. La régulation, c'est par exemple les décisions que prennent la Banque centrale pour piloter le crédit de façon plus ou moins avantageuse ou au contraire de façon plus ou moins restrictive. Ça, c'est la régulation. La réglementation, c'est autre chose. Par exemple, c'est savoir dans quelle mesure les banques peuvent se livrer à des activités de trading, point que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est de la réglementation. Alors, il faudrait d'abord qu'ils savent eux-mêmes ce qu'ils disent. Bon. Évidemment, nous, il faut continuer à réguler, avec en particulier l'intervention des banques centrales, il faut commencer à réglementer, c'est-à-dire à mettre des normes simples, des règles simples, qui vont encadrer les activités des protagonistes économiques et financiers.
Mais on n'a pas l'air d'aller trop dans cette direction.
Non, c'est le protectionnisme que je défends, et justement, est du ressort de la réglementation, et pas de la régulation. Nous pouvons éventuellement négocier cette conversion vers le protectionnisme avec nos principaux partenaires commerciaux, et mieux vaudrait le faire peut-être au préalable, en leur donnant un délai d'ajustement. Mais néanmoins, il faudra bien prendre des mesures de réglementation, et on ne veut pas le faire pour l'instant, parce que ce serait rompre avec une doctrine dont on a voulu imposer comme allant d'elle-même, et en quelque sorte une doctrine de l'économie naturelle.
Donc il n'y a pas d'espoir ?
Non. Je crois que, hélas, ou bien nous connaîtrons une reprise anémique, ou bien nous connaîtrons une période de marasme, ou bien nous connaîtrons une rechute. Et dans les trois cas, les États qui sont aujourd'hui exsangues vont bien être obligés de se poser la question d'une nouvelle politique et d'une nouvelle stratégie. Parce qu'ils ne peuvent pas relancer la machine économique en s'endettant encore plus qu'ils l'ont fait jusqu'ici. Leur crédit est déjà fragile sur les marchés spécialisés, des pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, mais aussi l'Italie ou l'Angleterre sont d'ores et déjà dans la cible des investisseurs. Les États-Unis ne pourraient l'être un jour. Dans ces conditions, tous les pays occidentaux, sans exception, pourraient voir leur crédit ruiné à brève échéance. En tout cas, dans l'état actuel des faits, nous ne pouvons pas surendetter les États plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Vous avez vu ce paradoxe ? Une crise du crédit privé qui entraîne un surendettement public et fait que l'ensemble des agents économiques, ménages, entreprises, États, est aujourd'hui accablé de dettes.
J'allais dire, mais c'est pas juste.
Non, ça n'est pas juste, mais c'est l'erreur de... Quand on commet des erreurs d'appréciation, eh bien, il faut en payer le prix. Il faut maintenant reconnaître nos erreurs d'appréciation et changer de stratégie. C'est possible.
Vous êtes un peu déprimant, finalement. Parce que vous avez l'air de dire que la seule solution, c'est de rompre avec le libre-échange. Est-ce qu'effectivement, c'est ça ?
Non, avec le libre-échange inconditionnel. Bon, il n'est pas question de tous les produits primaires dont nous avons besoin, nous allons continuer de les importer. Hein, le cacao de la Côte d'Ivoire ou ou le minerai de fer du Brésil, nous continuerons d'abord dans la mesure où nous avons encore une sidérurgie, bien sûr. Mais de la même façon, les biens d'équipement que nous ne faisons pas nous-mêmes, dans la quantité suffisante pour nous équiper, nous allons continuer à les importer. La question ne se pose pas de ce côté-là. La question se pose essentiellement pour certaines catégories de services et l'ensemble des articles manufacturés de consommation qui peuvent être localisés de façon presque systématique dans les pays à bas coût. Ça n'est plus possible parce que cela introduit une déflation salariale à l'échelon mondial qui place tous les acteurs dans une situation de dépendance et de fragilité. Donc le protectionnisme méthodique et tempéré que je prône avec quelques autres, comme Hakim El Karoui ou Jacques Sapir, devrait finir par s'imposer aux politiques qui ont notre sort entre leurs mains.
Quand je vous écoute, il y a deux choses qui m'épatent un petit peu, on pourrait presque dire. Vous avez dit à un moment, par le libre-échange, les pays développés ont fait le choix de faire, on pourrait dire, l'économie de l'intelligence.
Oui, mais on appelle ça l'économie de la connaissance.
De la connaissance. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire de ceux qui n'avaient pas de connaissances?
Oui, j'ai une position très prudente sur ce sujet. Je dis que d'abord, tous les types de travail sont qualifiés, plus ou moins. Mais donc, il ne faut pas dire qu'il y a le travail non qualifié d'un côté et le travail qualifié de l'autre. Ça, en plus, c'est assez désobligeant pour les travailleurs dits non qualifiés. Un travail d'aide cuistot ou d'agent de propreté requiert certaines qualités. Bon. Néanmoins, c'est assez prétentieux de se situer du point de vue de l'économie de la connaissance. Et la crise devrait être assez une contradiction ironique de la situation, puisque ce sont ceux qui se prévalaient de connaître les mécanismes économiques et financiers qui se trouvent aujourd'hui accablés par la crise. Ce qui veut dire qu'ils ont commis d'énormes erreurs d'appréciation et d'énormes erreurs pratiques. Prétendre avoir une expertise dans le domaine des services financiers alors que nous avons une faillite objective de la banque occidentale, c'est assez paradoxal. Il est très prétentieux de prétendre se situer dans l'économie de la connaissance, et il suffit de regarder ce qui se passe. Il y a 27 millions d'étudiants en Chine, dans les écoles, les instituts technologiques et les universités. C'est énorme. La Corée forme plus d'ingénieurs que les États-Unis. Donc quand on sait cela, on ne peut pas prétendre soi-même incarner l'économie de la connaissance, et il faut partager cette économie de la connaissance avec les autres. Même certains pays africains commencent à progresser soi-même, et c'est heureux. Donc, abandonner les schémas fallacieux de partage des tâches et de la connaissance à l'échelon mondial. Nous aurons tout cela en commun, savoir, savoir-faire, investissement, travail.
Ça me donne l'impression qu'il faisait une croix sur plus de la moitié de la population. De
au moins le quart. Hein. C'est Nicolas Bavrez, un jour, qui a dit il y a un quart de la population que la société informatique ou la société de la connaissance qui advient mettra au rebut. Bon, 25% de la population, c'est moins que ce que vous dites, mais quand même, c'est énorme. Bon. Ça prouve un cynisme ou une désinvolture intellectuelle et morale de la part de certains analystes, de certains membres de l'élite qui tentent de nous gouverner intellectuellement et pratiquement.
Ils ont fait une croix sur le plein emploi ?
Oui. Réponse, oui.
Et depuis longtemps, c'est ça... Comment c'est possible de faire, intellectuellement, comment c'est possible de faire une croix sur le plein emploi ? Quand on sait qu'un emploi, ce n'est pas simplement un revenu, c'est aussi de la reconnaissance.
Bon, donc c'est simplement une raison de vivre. Donc c'est bien sûr, mais ça, parce que les personnes qui font l'accord sur le plan de l'emploi ont un emploi dans les strates supérieures de la société, et un emploi qui n'est pas soumis aux aléas, aux turbulences de la concurrence du grand large. Bon. Vous êtes au Conseil d'État ou à la banque BNP Paribas, vous pensez à l'abri. Vous n'êtes peut-être pas autant que vous le pensez, mais vous vous sentez à l'abri. Les conseillers des princes, les fameux visiteurs du soir de M. Nicolas Sarkozy, ne sont pas concernés personnellement par le problème de la concurrence mondiale. C'est pour un sujet de discours, mais pas un sujet de préoccupation.
J'avais une autre question bête. Ils n'aiment pas leur pays ?
ils sont, non, ils, il ne faut pas dire qu'ils n'aiment pas leur pays ou qu'ils le détestent, simplement, ils se sont détachés des contingences quotidiennes et ils considèrent le pays simplement comme un territoire qu'on doit adapter, des populations qu'on doit adapter aux circonstances nouvelles. Et sans voir qu'il y a des limites que ces populations ne peuvent pas dépasser, des limites de contraintes. Ça, ils ne ressentent pas cela, et donc ils se détachent progressivement du réel.
C'est désespérant.
Enfin, là.
Est-ce que l'Europe, à terme, risque un déclassement économique majeur ?
Ben oui, l'Europe est sur la voie d'un déclassement économique. Les performances à l'exportation de pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ne doivent pas faire illusion. Nous allons vers une contraction progressive de notre base économique, en termes industriels, de services et même agricoles. De nouvelles activités vont apparaître, en particulier celles liées à la croissance verte. On essaie de recycler les matériaux et de réduire les consommations spécifiques d'énergie. Mais ces nouvelles activités et ces nouveaux produits ne compenseront pas les pertes sur les activités classiques, voire les activités high-tech que nous avons subies et que nous continuerons de subir.
Est-ce qu'il y a la possibilité un jour d'une forme de réindustrialisation de la France ?
Oui, la France et l'Europe occidentale. Il suffit de mettre en place une protection commerciale digne de ce nom. En même temps, un point que je souligne toujours, sans obtenir de réplique, ce qui prouve que l'argument est apparemment imparable, c'est qu'à partir du moment où vous êtes assuré une protection commerciale, mais vous accueillez les investissements étrangers, les investissements productifs, non, vos concurrents ont accès à vos marchés simplement en vous installant, en s'installant chez vous et en faisant chez vous ce qu'ils savent faire. Bon. Donc l'entreprise chinoise, indienne, indonésienne, brésilienne, qui voudrait avoir accès au marché européen, peut s'y installer en France, en Allemagne, en Italie, qu'importe, au Portugal, et participer à notre réindustrialisation avec ses propres savoir-faire, ses propres produits.
Mais s'il n'y a pas de protectionnisme, ça veut dire qu'à terme, l'industrie va perdre encore de plus en plus d'emplois,
on aura de moins en moins de
capacités.
Si nous ne faisons pas cela, nous allons avoir un déchirement du tissu économique. Puisque, vous le savez, beaucoup d'entreprises fonctionnent en relation entre elles. Bon. Et à partir de certains niveaux de contraction de l'activité, vous n'avez plus les fournisseurs dont vous avez besoin, donc vous êtes obligé de vous délocaliser parce que vous n'avez plus les fournisseurs sur place. Bon. Vous n'avez plus les clients que vous servez, donc vous êtes obligé de vous délocaliser pour trouver vos clients. Donc le tissu économique d'entreprise industrielle et de services va se contracter de façon dramatique, et en même temps, les comptes publics et sociaux ne pourront plus être ajustés. Nous serons au-delà du déficit que nous connaissons aujourd'hui et qui est pourtant très lourd. Donc, ce qui apparaît à l'horizon, c'est la perspective d'un déclin. Et pas d'un déclin graduel, mais d'un déclin tel que l'Espagne a pu en connaître au XVIIe siècle, après être illusionné dans l'euphorie créée par l'apport de métaux précieux d'Amérique. C'est un déclin historique qui le menace. Je le dis dans mes conférences, sans ce risque d'un déclin historique, je ne serai pas le chevalier flamboyant de protectionnisme européen.
Oups, j'avais devant moi le chevalier flamboyant du protectionnisme européen. Et moi, j'avais toute une série de petites questions un peu simplettes de non-économistes dans ma besace. Que faire ? Eh bien, je les ai posées quand même.
Pourquoi les Chinois achètent-ils des bons du trésor ?
Bon, de toute façon, il leur faut placer leur argent. Et ils ont aujourd'hui 2300 milliards de dollars de réserves de change, et ces réserves s'accroissent chaque année. Ils ont passé le cap des 1000 milliards il y a 4 ans à peu près, et vous voyez donc le chemin qui était parcouru. Ils ont dépassé le Japon il y a 4 ans environ, et maintenant ils ont 2300 milliards de dollars de réserves de change. Et il faut bien les placer. Alors on peut les placer en obligation des trésors endettés, hein, trésors occidentaux tout particulièrement, États-Unis, Europe, mais aussi ce qu'ils font à moindre degré, ils les placent en actions, où ils achètent des stocks de matières premières voués à s'apprécier dans l'avenir. Mais le premier placement, c'est évidemment le placement en obligations publiques. Mais cela les rend en même temps très puissants, très influents vis-à-vis des pays concernés qui ont besoin de ce refinancement Il y a une sorte de circuit continu entre les dettes de certains pays occidentaux et les excédents de certains pays asiatiques.
J'ai deux questions pour les non-économistes. C'est, qu'est-ce que c'est des réserves de change et qu'est-ce que c'est des points
de trésor? Réserves de change, c'est tout simplement le fait que lorsque vous êtes en excédent dans vos réserves extérieures, eh bien, vous avez des devises hein, qui affluent dans les comptes de vos entreprises, de vos banques. Celles-ci ou bien les utilisent pour leur propre compte ou bien les déposent auprès de la Banque centrale qui est donc à ses réserves dans ses comptes. Et après, la Banque centrale a pour charge de replacer ses monnaies, dollars, euros, etc., de façon à les faire fructifier. Donc c'est extrêmement simple, c'est comme à l'échelon de pays, comme un particulier qui a une épargne de côté, il y a 30 000 euros, 50 000 euros, et qui va placer un bas de laine, et il va le placer. Bon. Deuxièmement, les bons du trésor, les obligations du trésor, c'est tout simplement les titres qu'émet un trésor pour financer sa dette. Bon. Et ces obligations sont traitées sur le marché du crédit, plus ou moins appréciées, et effectivement, on le voit bien avec le problème de la Grèce qui s'est posé récemment, quand un pays est suspect, c'est-à-dire quand on pense qu'il pourrait ne plus assumer le service de sa dette, payer ses créanciers à l'échéance, les obligations qu'il émet, les titres qu'il émet, sont dépréciés sur le marché du crédit. C'est simplement des titres qui représentent la dette des États concernés.
J'ai une question peut-être idiote. Quand, par exemple, l'État français est endetté là, actuellement, pourquoi il ne fait pas marcher la planche à billets?
Alors l'État français, d'abord, est en zone euro et sa monnaie s'appelle l'euro. Donc de toute façon, il ne pourrait pas le faire. Il aurait pu le faire encore dans un schéma de monnaie nationale. C'est le cas d'un pays comme l'Angleterre. Quoique l'Angleterre a d'ailleurs commencé à monétiser sa dette, puisque la Banque centrale a racheté 200 milliards de livres sterling d'obligations émises par le gilts, les gilts en Angleterre, émises par le Trésor public britannique. C'est à double tranchant. Nous aurions dû peut-être monétiser partiellement notre dette, faire marcher ce que vous appelez la planche à billets. En fait, c'est le clavier de l'ordinateur aujourd'hui qui remplace la planche à billets.
C'est ce que veut dire monétiser sa dette.
Sa dette,
faire marcher la planche à billets.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Mais il faut le faire de façon modérée. Et de toute façon, comme nous avons laissé s'accroître les dettes publiques dans tous nos pays sans exception, maintenant nos créanciers ont entre les mains une masse énorme de titres représentatifs de notre dette. Ils peuvent les remettre à tout moment sur le marché et notre crédit est détruit instantanément. Donc là aussi, nous sommes dans une situation d'extrême fragilité. Parce que nos créanciers peuvent se dire, je ne fais plus confiance au trésor français, je ne fais plus confiance au trésor anglais, je ne fais plus confiance au trésor italien, et je me débarrasse des titres correspondants. Et vous ne pouvez à ce moment-là plus émettre de titres nouveaux pour combler vos déficits.
Et pourquoi ils n'auraient pas confiance?
Et parce que l'évolution ancienne et récente montre la fragilité de nos économies et la difficulté d'ajustement des comptes publics. Pratiquement aucun trésor public occidental n'ajuste ses comptes actuellement et les déficits sont creusés de façon très importante à l'occasion de la crise. La France est passée de 3% du PIB à 8,5% du PIB en l'espace de 2 ans. Là, si on prend les pays du G7, l'ancien G7, la dette publique des trésors de ces 7 pays aura cru de 50%, c'est-à-dire de moitié, en l'espace de 3 ans, entre 2007 et 2010, avec 3 facteurs. Premièrement, l'affaissement ou l'effondrement des recettes fiscales liées à la crise économique. Deuxièmement, le soutien aux banques, extrêmement coûteux. 117 milliards de livres sterling ont été injectés dans les banques nationalisées anglaises. Et troisièmement, les plans de soutien plus ou moins importants pour empêcher que la récession ne se transforme en dépression.
À propos de ce soutien aux banques, justement, ces derniers temps, vraiment, aux infos, je n'arrive vraiment pas à comprendre. On est en train de me dire que les banques font des profits actuellement, qu'on est en train de redistribuer.
Les banques font des profits grâce à leurs activités de trading, dont nous parlions tout à l'heure. Mmh. Trading pour compte propre. Elles vont sur le marché des devises, sur le marché des matières premières, sur les marchés du crédit titrisé, c'est-à-dire elles vont aussi bien sûr à la bourse, et ces salles de marché spéculent de façon très objective, et comme les prix montent, elles réalisent des plus-values. Et ces plus-values, évidemment, masquent des pertes qu'elle continue d'enregistrer sur les activités traditionnelles du crédit, où elle reste globalement déficitaire. Mais la montée des marchés financiers correspondants n'est pas garantie de façon éternelle. Nous pouvons très bien avoir une rechute courant 2010, courant 2011, auquel cas on verra réapparaître de très importantes pertes dans le système bancaire.
Et pourquoi on ne leur fait pas rembourser? Je ne sais pas si ce n'est pas ce qu'a proposé ce matin Obama. Pourquoi on n'a pas demandé aux banques, une fois qu'elles feraient du bénéfice, de rembourser les sous qu'a prêté l'État?
Oui, mais le vrai problème, c'est qu'on aurait dû en fait prendre le contrôle des banques d'une manière appropriée, à partir du moment, surtout dans les pays où on a soutenu massivement ces banques. Bon. Et ce qui est troublant, c'est que même dans un pays comme l'Angleterre, où les banques sont nationalisées, elles continuent de bénéficier d'une liberté de gestion à peu près complète, ce qui est aberrant. Non, on aurait dû prendre le contrôle des banques pour savoir exactement quelle était la véritable situation des comptes, pour leur demander de se délivrer de leurs mauvaises créances, d'apurer leurs comptes, et ensuite de reprendre le chemin du crédit. Les banques ne veulent plus prêter. En 1 euro, aujourd'hui même, le crédit baisse. Alors que, ça c'est une chose que je peux vous dire de façon extrêmement sûre, sans une augmentation de l'ordre de 10-12% du volume du crédit d'une année sur l'autre, vous n'avez pas de croissance véritable. Donc, imaginez une croissance importante avec un crédit à zéro ou en baisse, c'est une vue de l'esprit.
Mais pourquoi on n'a pas nationalisé, là?
Parce que c'est le monde bancaire a réussi à se sanctuariser pendant ces 25 dernières années, à devenir une économie dans l'économie, un monde dans le monde, et les États non plus ont abandonné leur pouvoir de réglementation et vis-à-vis des banques. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est aboyer pour demander que les bonus soient réduits ou soient supprimés, mais cela ne touche qu'à la surface des choses.
Comment ça se fait que les politiques n'ont pas pensé qu'en laissant la bride sur le coup comme ça à la finance, ça pouvait amener à des catastrophes? Ou au moins, justement, à une délégitimation de facto de ce qu'ils sont?
Les politiques pensent que les banquiers sont très intelligents. C'est une constante dans l'histoire. À quelques exceptions près, la classe politique pense que les banquiers font un métier qui requiert une véritable supériorité intellectuelle. Un homme comme John Kenneth Galbraith l'a dit dans ses textes, c'est bizarre. On pense toujours que les banquiers ou les financiers en général sont des génies quelque part, et donc il faut les laisser faire et non pas essayer de brider de façon intempestive leur talent, l'expression de leur talent ou de leur génie. Et le résultat, c'est qu'ils ont des faillites périodiques. C'est presque une constante dans l'histoire et qui s'est manifestée de façon très lourde dans la période récente.
Oui, parce qu'il y a quasiment un abandon de
la... un abandon de son pouvoir souverain de se mêler des choses essentielles, voire vitales pour l'avenir du pays ou des pays concernés. C'est une des énigmes des années 2008-2009 que le plus grand séisme économique d'après-guerre n'est pas entraîné une réinsertion méthodique et appropriée de l'État dans le champ économique et financier. Tout ce qu'ont fait les États l'a été en urgence et en désordre.
Faut attendre la prochaine crise?
Peut-être.
Et voilà, c'était « J'ai dû louper un épisode » à la deuxième partie de l'entretien que j'ai réalisé avec Jean-Luc Gréau le 14 janvier 2010. Jean-Luc Gréau a écrit deux livres, « L'avenir du capitalisme et la trahison des économistes », dont je ne peux à nouveau que vous conseiller la lecture. À bientôt.